bonjour et merci d'être au rendez-vous du grand face-à-face de France Inter. Un grand face-à-face format XXL, extra large. C'est la deuxième émission d'un nouveau rendez-vous que vous propose France Inter cette année jusqu'à l'élection présidentielle. Un tour de France pour aller au contact des citoyens, pour ouvrir le dialogue et faire le pari de l'intelligence collective. En un mot, une série d'émissions pour retrouver l'art du débat démocratique. J'allais dire l'art perdu du débat démocratique. Il suffit d'allumer sa télé et de regarder une chaîne info pour en être convaincu. Et cette semaine, France Inter s'installe à Tours avec mes camarades Gilles et Natacha. Et je remercie le public très nombreux dans la salle des mariages de la mairie de Tours. Salut à tous et merci infiniment de nous accueillir. Une salle magnifique, une salle où l'on s'aime et une salle où l'on prononce des vœux, où on dialogue également. Des micros circuleront dans cette salle pour vous donner la parole, chers auditeurs. Et un salut aux lycéens de première et de terminale de Saint-Gatien à Jouer, les Tours qui sont également présents avec nous. Salut à vous, vous n'êtes pas forcément en âge de voter, mais on peut vous applaudir et vous avez, vous aussi, un regard sur la politique. Et c'est pour vous, pour les générations qui viennent, que devront se décider l'ensemble des 46 et quelques millions de Français qui composent le corps électoral, dessiner la France de demain, la France pour les futures générations. Aujourd'hui, notre grand invité, il est historien, philosophe, professeur émérite au Collège de France, et il est aussi l'auteur d'un livre majeur pour comprendre à la fois notre époque et la campagne présidentielle. Pierre Rosanvallon publie « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français », c'est aux éditions du Seuil, et il viendra nous rejoindre dans quelques minutes.
Le grand face-à-face XXL, Ali Badou sur France Inter.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Il y a le congrès de Tours qui doit parler à l'un, il y a l'amour de Tours, tout simplement, qui doit parler à l'autre.
Les deux.
Les deux. Et pour vous, Gilles ?
Les deux aussi.
Le congrès de Tours, l'histoire de la gauche, c'est évidemment une question qui se pose aujourd'hui dans la campagne présidentielle. Et on aura l'occasion d'y revenir puisque Gilles Finkelstein, avec le CEVIPOF de Sciences Po et l'Institut Ipsos, ont mené une très grande étude sur un panel de 10 000 Français. On aura l'occasion d'en parler pour voir dans quel état est la gauche aujourd'hui. Mais d'abord, on va commencer par ceci. Vous savez de quoi je parle, peut-être même avant même que je l'annonce, en une lettre Z.
Je pense que le mariage homosexuel a été une erreur, je maintiens. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus ? J'en suis pas sûr. Le sujet, c'est l'identité de la France. C'est ce sujet qui va rassembler des électorats disparates qui se sont séparés depuis longtemps.
Vous avez reconnu la voix d'Éric Zemmour, il était en visite à Versailles cette semaine, c'était mardi soir, il était sur la scène du Palais des Congrès de Versailles. Pourquoi parler d'Éric Zemmour justement, puisque vous avez une étude absolument inédite, Gilles, que vous avez menée pour comprendre qui étaient les électeurs potentiels d'Éric Zemmour et la manière dont il s'installe, dont il perturbe éventuellement le paysage politique français?
Oui. On a pris notre temps pour parler d'Éric Zemmour, puisque c'est la première fois qu'on aborde le sujet directement dans cette émission. Et je crois qu'on le fait parce que les informations que donnent les résultats de cette enquête, qui est exceptionnelle en ce sens qu'elle s'appuie sur un échantillon, non pas de 1000 Français comme dans un sondage traditionnel, mais d'un peu plus de 16 000 Français. Et que parmi ces 16 000 Français, on en a 1400. C'est-à-dire près de 16% du corps électoral qui disent avoir l'intention de voter pour Éric Zemmour. Je crois qu'il y a au moins deux informations importantes qui ressortent de cette enquête. La première, c'est qu'on voit que la percée d'Éric Zemmour est réelle. Je l'ai dit, 16%, quelles que soient les hypothèses que l'on a testées, il est en situation aujourd'hui de se qualifier pour un éventuel second tour. Et surtout, on voit que son électorat est sociologiquement équilibré.
Expliquez-nous ça.
Ça veut dire qu'il n'a pas une énorme majorité de Français de plus de 60 ans, comme l'est l'électorat des Républicains, ni une énorme majorité de Français issus des milieux populaires, comme l'électorat de Marine Le Pen. Son électorat est sociologiquement équilibré. Et puis l'autre élément qui montre en quoi cette percée est réelle, c'est que c'est un électorat qui est politiquement convaincu. Convaincu par l'homme, ils ont le sentiment a, dans une proportion très importante, 83% d'entre eux qui a l'étoffe pour être président de la République, est convaincu par ses idées. C'est un électorat qui est obsédé par la question de l'immigration, par la question de l'islam, et qui, sur ces points-là, partage ce que dit Éric Zemmour. Donc ça, c'est le premier point, c'est une percée réelle. Et puis l'autre point, le contrepoint, c'est qu'on voit aussi en quoi cette percée n'est pas irrésistible, ce qui, pour ceux qui, comme moi, combattent Éric Zemmour, est plutôt rassurant. On voit des faiblesses importantes dans son image. Les Français, très majoritairement, considèrent qu'il n'a pas l'étoffe d'un président de la République. Il est même loin derrière Marine Le Pen, très loin derrière Emmanuel Macron. Il est de tous les candidats celui qui inquiète le plus. Il est de tous les candidats celui dont les Français considèrent qu'il donne le plus une mauvaise image de la France à l'international. Et je disais tout à l'heure que son électorat est sociologiquement équilibré. Il y a une grande faiblesse qui est l'électorat féminin.
Ça, c'est très intéressant.
C'est très intéressant. On retrouve ce qui existait au début de l'ascension de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire un écart entre le vote des hommes et le vote des femmes très important, que Marine Le Pen, peu à peu, avait comblé. Et compte tenu du poids de l'électorat féminin dans une élection, il y a là, évidemment, une faiblesse très importante.
L'avenir, donc, est aux femmes. Natacha.
Je pense qu'il est très intéressant, en effet, d'essayer de comprendre ce que nous dit cette montée d'Éric Zemmour, alors même que nous savons que tout cela, ce ne sont que des projections qui ne nous disent absolument pas si, une fois qu'il se déclarerait candidat, les gens qui aujourd'hui disent vouloir voter pour lui le feraient réellement. Ce n'est pas ça le problème, en fait. C'est le problème est que ça nous révèle des angoisses, des inquiétudes d'une partie des citoyens français. Et nous avions fait la semaine dernière, dans Marianne, une série de reportages pour aller rencontrer justement ces électeurs. Et ce qui ressortait, c'était essentiellement la peur de voir la France se défaire. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une inquiétude sur les questions non seulement d'indépendance nationale, mais aussi de destruction de tous les cadres de la civilisation qui peuvent aujourd'hui structurer l'histoire, la nation française. Et ça, c'est quelque chose qui nous montre que la montée d'Éric Zemmour n'est qu'un symptôme. La question est de savoir comment on identifie les causes exactes et comment on y répond, de façon à ce que la réponse ne soit pas celle, justement, d'Éric Zemmour ou du Rassemblement National ou de n'importe quel parti dont on ne partagerait pas les idées. Or, il y a aujourd'hui une espèce de polarisation autour du personnage d'Éric Zemmour, notamment de la part des médias. Il joue le rôle du coup de pied dans la fourmilière, mais il aveugle. Au lieu de regarder le fond du problème, on ne regarde que la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien qu'Éric Zemmour soit à 16%. Je pense qu'il va falloir prendre un autre point de vue.
Et on aura évidemment l'occasion d'y revenir au cours de l'émission avec vous et avec Pierre Rosanvallon. Encore un mot sur le sujet, Gilles.
Oui, juste un mot. Natacha vient de dire que c'était un symptôme. Je crois que c'est effectivement le cas. Mais c'est un symptôme qui a des causes profondes. Et c'est pour ça que la simple dénonciation de la bulle médiatique ou de la bulle sondagière serait une erreur. Et qu'il faut aller au fond et qu'il faut aller l'affronter sur le fond, c'est-à-dire que si on ne partage pas la vision de l'histoire, la vision de la France, la vision des étrangers, la vision des femmes d'Éric Zemmour, il faut proposer un contre-récit de cette histoire et il faut aussi le débusquer. On a passé, là, à l'instant, un petit extrait de la visite d'Éric Zemmour à Versailles, s'exprimant devant la Manif pour tous, dans laquelle, peut-être même de manière un peu naïve, il a dévoilé ce qu'était sa stratégie. Quand il dit « le sujet qui va permettre de faire converger les électorats, c'est l'identité de la France, donc les autres sujets, le mariage pour tous, les femmes, on ne va pas en parler, on verra après », eh bien non, il ne va pas falloir voir ça après, il va falloir lui poser les questions pendant, et puis dernier mot, il va falloir aussi l'ignorer, c'est-à-dire parler d'autre chose, parce que, on le voit là aussi dans cette enquête, il y a bien d'autres problèmes qui préoccupent les Français que la seule question de l'immigration et de l'islam.
Et justement, on va tourner la page, le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Nous devons assumer de mettre ce modèle derrière nous. Nous devons assumer de passer tous ensemble au modèle d'après.
C'était Emmanuel Wargon, ministre du Logement. C'était jeudi et en clôture de l'opération Habiter la France de demain qui visait, et je cite, à mettre en valeur d'autres modèles d'habitat plus durables, plus agréables à vivre que ceux qui existent aujourd'hui. Et donc, elle qualifiait le modèle du pavillon avec jardin de rêve construit pour les Français dans les années 70, plus soutenable et de non-sens écologique, économique et sociale, je ferme les guillemets. Pourquoi vouliez-vous revenir sur cette déclaration d'Emmanuel Wargon, Natacha ?
Parce que je pense qu'elle est révélatrice d'un malentendu absolu. C'est-à-dire que cette déclaration a déclenché un flot de réactions et de réactions de colère, parfois, d'indignation de la part de gens qui se sont sentis méprisés et incompris, parce que de fait, le rêve de la maison individuelle avec jardin est largement partagé par une très très grande part des Français. Et donc venir expliquer que non, ce n'est pas écologique et que non, il ne faudrait pas rêver de cela, ça s'est vécu par beaucoup de gens comme une incompréhension totale et une injonction venue d'en haut, comme trop souvent. Or, il y a un problème de fond qui est que Emmanuel Wargon pointe là un réel sujet. La question de l'extension des zones pavillonnaires et de l'artificialisation des sols qu'elle engendre, puisque cette extension est construite sur le triptyque voiture, pavillon, grande distribution, est quelque chose auquel il faudra répondre pour des raisons écologiques de fond. Le problème est qu'on ne peut pas y répondre simplement en disant que le modèle du pavillon n'est pas le bon, d'autant plus qu'il y a une différence majeure entre, par exemple, l'urbanisation telle qu'elle a pu se faire dans certaines banlieues dans les années 1920-1930 avec le pavillon en meulière, etc., et les zones pavillonnaires de grandes couronnes de métropoles telles qu'on les voit aujourd'hui. C'est pas du tout le même problème. Donc la réflexion, elle doit se mener de façon concomitante sur la question de la métropolisation. 82% des emplois créés dans les 15 dernières années l'ont été dans les métropoles. Ça veut dire qu'on a concentré le travail et qu'on a obligé donc les gens à habiter autour de ces métropoles, évidemment de plus en plus loin dans les banlieues, puisque c'était de plus en plus cher dans les centres-villes. Oui. Donc on a créé un modèle absurde, mais on ne réglera pas ce modèle en disant aux gens, faut pas rêver d'un pavillon, on va vous mettre dans des habitats multiples. La question, c'est comment on recrée de l'emploi dans l'ensemble des villes moyennes, de façon à rapprocher l'habitat du travail, et de façon à rééquilibrer les territoires. C'est beaucoup plus vaste que la simple question écologique de savoir si avoir un pavillon avec jardin, c'est bien ou c'est pas bien.
Et on aura l'occasion d'interroger le maire de Tours, qui nous accueille ici dans sa mairie, Emmanuel Denis, sur cette question. Gilles, pourquoi vouliez-vous y revenir, vous aussi ?
C'est à la fois le meilleur et le pire moment pour aborder cette question-là. C'est le meilleur moment parce qu'on a vu, après le confinement, un pourcentage absolument considérable de Français déclarer qu'ils avaient l'intention de changer de vie et de déménager. Donc, c'est un bon moment et c'est sans doute le pire moment parce qu'on est juste au début d'une campagne présidentielle, a fortiori par un gouvernement qui a affronté la crise des gilets jaunes. Natacha disait tout à l'heure, c'est la vie rêvée d'une majorité de Français, c'est la vie vécue aujourd'hui par une majorité de Français, puisqu'il y a une majorité de Français qui habitent, je ne vais pas utiliser le terme de pavillon, mais dans des maisons individuelles. Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli ont publié il y a quelques jours un très bon livre plein de sensibilité qui décrit la France, qui s'appelle « La France sous nos yeux ». Et ils décrivent cette sorte d'archétype de la maison individuelle, c'est-à-dire une maison à côté d'autres maisons, en zone périurbaine, avec un garage, avec davantage d'espace que ce que l'on peut avoir en ville, avec derrière la maison un jardin, un salon de jardin, un barbecue, un trampoline, plus que dans d'autres pays une piscine, même si ça ne concerne qu'une minorité, même si évidemment la réalité des maisons individuelles est beaucoup plus diverse, puisque en dessous de 100 000 habitants, la majorité dans une ville, ce sont des maisons individuelles. Je ne sais pas ce qu'il en est à Tours, mais qui est un peu au-dessus. Donc, c'est la vie actuelle, et c'est surtout, et c'est ça qui est très important, davantage encore la vie rêvée des Français. On a entre deux tiers et trois quarts des Français qui disent vouloir vivre dans une maison individuelle, parce qu'il y a là la convergence à la fois du désir de propriété et d'une certaine conception de la liberté. Et donc, je crois qu'il faut évidemment respecter, reconnaître ses choix. Et la formule, il faut mettre derrière nous la maison individuelle ou le pavillon quand ça concerne déjà plus de la moitié des Français, c'est sans doute pas comme ça qu'il faut aborder les choses. En revanche, et là je rejoins tout à fait ce que vient de dire Natacha Polony, il faut aussi évaluer les problèmes collectifs que pose ce type d'habitat, les conséquences environnementales avec l'artificialisation des sols, les conséquences économiques parce que ça surenchérit les coûts de l'ensemble des services publics, et les conséquences sociétales. Jean Viard a publié il y a quelques semaines un livre qui s'appelait « La révolution que l'on attendait a lieu » ou a commencé, je ne sais plus quel est le titre exact, ou a commencé, et il dit « On a construit avec la maison individuelle un mode de vie, mais on n'a pas construit les réseaux d'appartements et de territoires démocratiques autour de ce mode de vie. » Et donc ça, même si les politiques publiques peuvent contribuer à renforcer davantage la densité urbaine, il faut s'occuper aussi dans ces zones pavillonnaires, dans les zones des maisons individuelles, de recréer du commun.
Natacha.
Je pense qu'on peut ajouter que ça passe par l'organisation institutionnelle, parce que si on regarde par exemple la métropole de Tours, la question est de savoir comment on évite que des petites villes autour ne soient absorbées par une métropole et ne deviennent des banlieues dortoirs. Et c'est cela qu'explique Jean Viard dans son livre, c'est la question de savoir comment on évite que des gens soient déconnectés, en fait que l'endroit où ils vivent soit déconnecté de leur travail et donc de leur véritable lieu de vie dans la journée. Et ce qui créer des déséquilibres démocratiques puisque les citoyens ont tendance du coup à se désintéresser de cet endroit où pourtant ils sont implantés. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jean Castex vient d'annoncer une prime qui est en fait donc qui est intitulée voilà une indemnité inflation pour régler un problème de pouvoir d'achat. La question du pavillon, la question de l'habitat est liée à cette question de pouvoir d'achat qui est en train de prendre de l'ampleur dans la campagne électorale et on comprend pourquoi, parce qu'il y a actuellement l'impression de la part de la plupart des Français, et c'est pas qu'une impression, c'est que les dépenses contraintes et le logement est la première de ces dépenses contraintes, sont en train de s'amplifier et que donc il n'y a plus de choix individuel de vie. C'est-à-dire que le peu de liberté qui reste dans le pouvoir d'achat est en train de s'amenuiser. Tant qu'on n'aura pas une véritable politique du logement, tant qu'on ne réfléchira donc pas à la façon de recréer de l'activité dans des endroits où il y a des logements anciens qu'il faut rénover, parce qu'il y en a dans tout le territoire français, c'est simplement qu'il n'y a plus de travail, donc ces territoires-là se vident. Tant qu'on ne fera pas ça, on sera contraint de faire comme on fait actuellement, c'est-à-dire une sorte d'aumône absolument infime. 100 euros, ça va à peine régler le problème que pose l'augmentation du carburant, de l'énergie, etc. Et on n'aura pas pensé l'aménagement du territoire, le rééquilibrage, qui est là aussi la base de la démocratie. Rééquilibrer les inégalités de territoire pour que chacun ait sa chance où qu'il soit, c'est un des fondements de l'État.
Faisons un sondage sauvage. Il y a un bonheur à vivre à Tours? Je vous pose la question à vous qui êtes dans le public. Oui, je vois des pouces se lever. Apparemment, il y a une spécificité ici à Tours. Gilles, vous vouliez rajouter un mot sur les annonces de Jean Castex avant de retrouver Pierre Rosanvallon.
Oui, juste un mot. On peut en faire une analyse technique. On peut en faire une analyse budgétaire. On voit comment en l'espace d'une journée comme ça, près de 4 milliards sont dépensés et que la période préélectorale n'y est sans doute pas pour rien. Mais je voudrais faire le lien entre l'annonce de Jean Castex et les réactions qu'ont provoqué les propos d'Emmanuel Wargon, parce que, en fait, je pense que les deux s'expliquent de la même manière. Les réactions aux propos d'Emmanuel Wargon, Natacha l'a dit, ont été extrêmement vives, et elle a été sommée, dans la foulée, de modérer ses propos pour éteindre le débat. Et je crois que c'est un peu la même chose avec la prime qu'a annoncé le Premier ministre. Il faut éviter que les colères reprennent dans le pays, qu'on réactive ce qu'a été l'esprit du mouvement des Gilets jaunes. On va parler avec Pierre Rosanvallon de cet état d'esprit des Français. Aujourd'hui, ce sont, dans l'enquête qu'on a publiée aujourd'hui, l'incertitude, l'inquiétude, la fatigue qui sont les sentiments qui dominent. La colère et la révolte sont en dessous. Il faut, pour le gouvernement, ne pas les réactiver.
Voilà, qui est dit, la colère, le ressentiment, ce ne sont pas les émotions qui dominent ici dans cette salle des mariages, je le disais tout à l'heure. Ici, on s'aime, ici, on débat, ici, règne quelque chose comme un esprit de fraternité. Je vois quelques doutes malgré tout sur certains visages à suivre dans le grand face-à-face XXL, ici à Tours, le débat avec Pierre Rosanvallon.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Le grand face-à-face XXL en public à Tours. Merci d'être avec nous dans cette salle des mariages avec notre grand invité que je vous demande d'applaudir. Historien et philosophe Pierre Rosanvallon. Bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour.
Bonjour. Un filet de voix, on vient de l'entendre. Vous qui êtes une grande voix du champ intellectuel. Mais je vais dire que c'est de saison. En tout cas, ça ne vous empêche pas de vous exprimer. Et je le dis en souriant, ce filet de voix, ça nous change des vociférations qu'on peut entendre sur certains plateaux télé. Donc c'est une manière aussi d'installer un débat apaisé. Vous publiez un livre indispensable, je le disais, pour comprendre la France d'aujourd'hui, la campagne présidentielle, les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, comprendre les émotions, les attentes, les colères aussi qui traversent notre société. Et les émotions, justement, quelle manière avez-vous eu de les traiter? Pourquoi prendre en compte les émotions aujourd'hui plus qu'hier? Après tout, on peut s'en tenir aux chiffres, on peut comprendre la France à travers des statistiques, à travers des analyses sociologiques plus précises. L'émotion, c'est subjectif.
Oui, mais on peut comprendre la société à partir des pancartes dans la rue. Quand on voit les pancartes, autrefois, c'était des pancartes pour le pouvoir d'achat, pour les intérêts des gens. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la façon dont on ressent les choses, dont on les perçoit, dont on se sent humilié, pas respecté. Et je crois que ça, c'est un grand changement. La politique classique, c'est le conflit des intérêts. C'est la définition du conflit de classe. Aujourd'hui, ce sont des émotions, c'est du ressenti. Et on l'a vu avec les gilets jaunes, avec MeToo, avec tout un ensemble de phénomènes aussi aux États-Unis, dans les pays arabes. Et je crois que c'est la grande caractéristique contemporaine.
Est-ce qu'on peut dire que les émotions, c'est une sorte de point aveugle de la politique? On a vu des partis, on voit aujourd'hui des candidats qui jouent sur certaines émotions, sur des passions tristes, mais c'est quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte quand on veut comprendre le champ politique actuel?
Si, les émotions, elles sont prises en compte, mais elles sont prises en compte en mauvaise part. On veut surfer sur le ressentiment, on veut surfer sur la colère, on veut surfer sur le sentiment de mépris, par exemple. Mais on ne va pas au cœur de ce qui fabrique les émotions. Ce qui fabrique les émotions, ce sont des épreuves. Les épreuves de l'incertitude, les épreuves de l'égalité, les épreuves aussi du sentiment qu'on n'est pas respecté.
Oui.
Et je crois que il faut passer des émotions, ce qui est immédiat, au sentiment de ce que fabriquent ces épreuves. Et c'est ces épreuves qu'il faut prendre en compte, qu'il faut analyser.
Justement, avant de donner la parole à la salle, un micro va circuler très rapidement. J'aimerais juste que vous nous disiez comment des émotions peuvent se traduire en vote. Est-ce qu'on peut établir une sorte de mécanique qui fait que telle émotion va se traduire dans tel vote pour tel candidat ou pour tel parti?
Mais ça, c'est le grand problème actuel. La politique classique, c'était un conflit d'intérêts. Il y avait d'un côté la gauche et la droite. Il y avait d'un côté les bourgeois. De l'autre, les ouvriers. Donc, c'était des conflits d'intérêts.
Oui.
Aujourd'hui, ce sont des conflits d'émotions. Et pour qui vote-t-on? On vote parce qu'on a des passions, parce qu'on déteste, parce qu'au contraire, on est attiré. Et donc, il faut trouver le moyen de comprendre la politique à partir des répulsions, à partir des attractions. Et c'est pour cela que la sociologie électorale est plus difficile. Autrefois, prévoir le vote, c'était dire quels sont les ouvriers qui vont voter, quels sont les bourgeois. Aujourd'hui, c'est comprendre ce mélo d'émotions et d'attractions.
Donc votre boulot de sociologue et d'historien est devenu plus difficile. En tout cas, Gilles et Natacha ont lu votre livre comme un nombre important de personnes dans la salle. Mais on va tout de suite donner la parole à une personne qui va peut-être pouvoir venir en aide et vous aider. Elle est médecin. Pierre-Rose en Vallon, c'est Sophie Lise, bonjour à vous et bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous dans le grand face-à-face XXL. Je ne sais pas si vous pouvez soigner Pierre-Rose en Vallon, en tout cas vous avez une question pour lui.
Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors je ne sais pas si je vais lui rendre la parole, effectivement, on en parlera peut-être après. Donc je suis médecin généraliste à Joué-les-Tours et je suis présidente d'une CPTS et des communautés professionnelles territoriales de santé. C'est une association de professionnels de santé libéraux du territoire. Et d'ailleurs, la question m'a été inspirée par un des adhérents, le docteur Cuvillier. Dans, à certains moments, vous parlez d'individualisme, que l'individualisme est partout et nuit à nos relations sociales. Mais partout, peut-être pas chez les soignants, puisqu'on a pu voir avec les différentes crises que l'individualisme n'était pas présent chez eux. Et pourtant, les soignants sont maltraités, ils ont des mauvaises conditions de travail, ils ont pour la plupart des rémunérations très basses, sauf peut-être certaines spécialités médicales. Et cette rémunération, c'est pas dû à la loi du marché, puisqu'on a une pénurie de soignants. Et donc, les soignants, ils veulent, comme les autres, avoir de bonnes conditions de travail. Donc peut-être c'est pour ça qu'on assiste à une crise des vocations. Et la question qu'on se pose, c'est que n'est-il pas temps que les soignants, justement, rattrapent leur retard en matière d'individualisme ?
Que les soignants deviennent plus individualistes encore. Merci Sophie pour votre question, Pierre-Rose en Vallon.
Il y a deux sortes d'individualisme. Il y a un individualisme qui sépare de la société et il y a un individualisme qui demande que les individus se réalisent eux-mêmes. Donc, il y a un individualisme positif de la reconnaissance de la singularité, de l'individualisation personnelle. Et il y a un individualisme négatif, la séparation, l'atomisation. Donc, il y a un bon et un mauvais individualisme.
Un mauvais individualisme, et en l'occurrence, je remercie encore Sophie, puisque c'est vrai que elle et ses collègues étaient en pointe pendant toute la pandémie, et notamment pour vacciner dans les deux grands vaccinodromes de l'agglomération. Et puis, dans votre livre, Pierre-Rose en Vallon, dans les épreuves de la vie, vous revenez assez longuement sur le mouvement des Gilets jaunes et sur les émotions qu'il a pu porter, sur aussi, comment dire, comment il a pu créer du collectif, comment les émotions à ce moment-là ont pu créer du collectif. Et justement, on a avec nous ici à la mairie de Tours une personne qui faisait partie de ce mouvement des Gilets jaunes et qui voulait également vous interpeller. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes Ambre Faublet.
Oui, c'est ça.
Bonjour. Bonjour. Aide-soignante. Et vous êtes suspendue. Je peux le dire.
Oui, oui, oui.
Par rapport à la vaccination, vous avez manifesté avec les Gilets jaunes dès la première heure. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez fait un test PCR pour pouvoir accéder à la mairie et présenter un test sanitaire qui vous a donné accès à cette salle. Que diriez-vous à Pierre-Rose en Vallon, justement ?
Alors, bonjour et bonjour. Merci de parler enfin d'émotion parce que justement, on s'éloigne de ça depuis ces dernières années. Et je vais essayer de faire court et d'évoquer deux points. On parlait de la dignité des Gilets jaunes et tout ça. Je rappelle que les Gilets jaunes étaient sortis dans la rue justement parce qu'ils voulaient vivre dignement. Et vivre dignement en France, ça veut dire avoir un salaire assez élevé qui permet de vivre dignement. Sinon, c'est un salaire qui permet seulement de payer des factures et de s'acheter à manger. Et je rebondis aussi sur l'individualisme. Vous parliez de la vaccination, du test PCR. En tant qu'aide-soignante suspendue, j'ai choisi de ne pas me faire vacciner. Pas par individualisme, mais justement pour mes patients, pour ce que j'ai vu au cours des deux dernières années, des tests PCR abusifs, des vaccinations faites à des gens qui avaient des problèmes cardiaques qui engendraient des dégradations de l'état général. Je mélange un peu tout parce que je vous ai écouté depuis tout à l'heure et c'est dur de canaliser sa question. Mais voilà, pour parler de dignité de gilets jaunes, c'était ça. C'était avoir une vie digne. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, la dignité de l'être humain est en train de disparaître à un point gigantesque. J'ai vu des personnes en fin de vie qui ont subi des tests PCR très violents. Quand on est en train de mourir, on se rend plus compte de ce qui se passe autour de nous. Et les gens ont été agressés avec ça. Je ne vais pas trop aller loin, je voulais surtout parler de ce sujet.
Non, mais on sait que le travail des aides-soignants, et en l'occurrence des aides-soignantes, a été absolument déterminant au cours de ces mois que nous avons traversés. Pierre-Rosan Vallon et puis Natacha Polony voulaient également réagir.
Oui, la dignité et le respect, c'est essentiel. Je pense à une chose, c'est qu'aujourd'hui, en Allemagne, le responsable du Parti social-démocrate a fait du mot « respect » le centre de son discours politique. Ça, pour moi, c'est un signe majeur. Parce qu'avant, le Parti social-démocrate, il ne parlait que des structures de la société, de politique générale. Alors que là, il a trouvé le mot clé, le mot « respect ».
Natacha.
Je pense que cette question, elle est en effet centrale et qu'elle est très intéressante quand on se réfère justement à ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. Parce que dans votre livre, Pierre-Rosan Vallon, vous revenez sur, toute l'histoire de la démocratie et comment, à partir de 1789, justement, la question de l'égale dignité des citoyens et donc de cette espèce d'égalisation par le haut qui a été faite avec l'abolition des privilèges, comment tout cela est censé régir une société démocratique et que finalement, les privilèges se reconstituent, les inégalités de conditions se remettent en place et recréent du mépris. Vous expliquez ça parfaitement. À ceci près que quand vous analysez le mouvement des Gilets jaunes, vous parlez de ces émotions qui en effet se sont manifestées, qui étaient justement le refus de ce mépris, le besoin de reconnaissance qui est absolument essentiel. Mais en fait, il y a une ambivalence dans votre analyse, qui est le fait que vous analysez le résultat de l'individualisation, de l'atomisation de la société, mais à aucun moment les causes de cette atomisation. Et donc j'ai l'impression qu'en fait ce constat d'une société devenue individualiste est en train de dépolitiser la question. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement dont on peut essayer de reconstituer la généalogie politique et sociale. C'est la fragilisation des classes populaires et des classes moyennes des pays occidentaux par un système économique. C'est l'absence d'aménagement du territoire, la disparition des services publics. Tout cela est politique. Si on ne conçoit plus ça qu'en termes d'émotion, de ressentiment, de demande de respect, ben, on se prive de la possibilité d'agir.
Pierre-Rosan Vallon.
Moi, je ne pense pas que le fait de s'intéresser aux émotions fait que je m'intéresse plus aux intérêts. Les questions économiques, elles sont essentielles. Ce que vous dites, on le sait déjà. Ce que j'ai voulu, c'est apporter un complément de vision. Aller plus loin, ne pas en rester à l'analyse économique. Et bien sûr, l'analyse économique, elle compte, elle est essentielle. Mais il y a aussi cette autre dimension qu'il faut prendre en compte.
Et notamment, par exemple, celle de l'indignation dont vous parlez au moment de votre analyse des Gilets jaunes. Gilles Finkelstein, et puis j'aimerais qu'on réentende de nouveau Ambre. Gilles.
C'était justement pour répondre à la question d'Ambre, prolonger ce qu'elle disait sur cette demande de dignité. Dans la mesure où cette demande de dignité a été celle du mouvement des Gilets jaunes, mais elle est beaucoup plus profonde dans la société française. On a posé, il y a quelques semaines, au panel de 14 000 Français dont je parlais tout à l'heure, une question ouverte. On leur a demandé, en quelques mots ou en quelques phrases, si vous deviez décrire la société dans laquelle vous voudriez vivre. Qu'est-ce que vous diriez? Et ce qui ressortait, c'était à la fois, c'est la France telle qu'elle est, sans quelque chose. Vous m'enlevez un peu d'inégalité, un peu d'immigration, un peu de Marine Le Pen, un peu d'Emmanuel Macron, chacun voulait enlever quelque chose et ça irait très bien. Et les autres disaient, ça serait une société dans laquelle il y aurait à la fois moins de violence et plus de respect, plus de reconnaissance, plus de dignité, ça ressortait beaucoup. Et pour prolonger ce que disait Pierre Rosanvallon sur la campagne de Olaf Scholz, le candidat social-démocrate en Allemagne, il a gagné avec ce mot d'ordre du respect. Mais ce n'était pas seulement un mot d'ordre, et c'est ça qui est intéressant. C'est non seulement le respect, c'était de s'adresser et de reconnaître l'utilité de toutes les catégories de la population, mais il y avait aussi des illustrations concrètes, et c'est là où on vient à la question des intérêts, puisque une de ces mesures phares était une augmentation substantielle du salaire minimum en Allemagne, qui va passer de 9 à 12 euros, et qui était aussi une forme d'illustration de ce mot d'ordre du respect.
Ambre Faublet, est-ce que vous avez trouvé une traduction politique à votre colère, à ce qui a fait que vous êtes engagé parmi les premiers dans ce mouvement des Gilets jaunes?
La traduction politique, c'est revenir à des émotions, à des choses plus simples. Et je vais prendre une image très simple. Mon métier que je ne peux plus exercer, donc je l'exerce beaucoup sur des personnes en fin de vie.
Et quand je rappelle que vous êtes aide-soignante et que donc c'est parce que vous n'êtes pas vaccinée que vous ne pouvez plus, exercer votre métier.
Et mon métier m'a appris que quand on est sur son lit de mort, la seule chose qui ressort à la fin, c'est « je regrette, j'ai pas dit je t'aime, je regrette, j'ai pas pardonné et je regrette, j'ai pas vécu ». Qu'on soit cadre, qu'on soit aide-soignante, qu'on soit éboueur. Et là, dans la société actuelle où on est privé d'un peu tout, être obligé de se vacciner, test PCR, on est privé de l'essence même de notre vie, la vie sociale, des choses simples. Donc voilà, là, ce que ça m'a appris, c'est revenir à des choses simples, mais qu'on puisse les vivre pleinement.
Et est-ce que vous trouvez une traduction politique, justement, à ce que vous ressentez, à ce que vous désirez éventuellement?
Dans un parti politique, vous voulez dire?
Dans le champ politique tel qu'il se présente aujourd'hui, à 6 mois maintenant de l'élection présidentielle.
Si je dis sincèrement ce que je pense, ça serait la France.
On est là pour ça.
Ça serait la France insoumise, qui, je trouve, représente le plus les émotions. Je ne dis pas que M. Mélenchon représente les émotions, mais les gens qui sont sur le terrain, de ce que j'ai rencontré, représentent ça.
Natacha Polony.
Il y aurait peut-être une traduction. Je pense au documentaire que vient de tourner François Ruffin, député de la France insoumise, dans lequel il parle justement des métiers qui sont proches du vôtre. Il parle non seulement des aides-soignantes, mais des auxiliaires de vie, des aides aux enfants handicapés, de tous ces métiers qui sont pour beaucoup des métiers relégués, des métiers pas suffisamment respectés, des métiers dont on ne prend pas en compte la dignité. Et il raconte tout le travail parlementaire qu'il a fait avec un député de La République En Marche, Bruno Bonnel, donc rencontre improbable. Mais ce combat qui, lui, est politique, c'est-à-dire pour faire en sorte que ces métiers du lien soient reconnus. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de l'émotion, le fait, en effet, que ces métiers sont des métiers qui recréent du lien dans des sociétés éclatées, dans des sociétés où ce ne sont plus, comme autrefois, les femmes à la maison qui s'occupent des personnes âgées, mais où on est obligé d'avoir des métiers pour ça. Mais en même temps, il y a une question de statut social, il y a une question économique pour sortir de la précarité des gens qui n'ont aucune protection, qui sont obligés de prendre leur voiture et qui doivent payer le carburant trop cher. C'est-à-dire que la reconnaissance et la dignité, ça ne suffit pas. Il y a aussi un système qui écrase.
Pierre Rosanvallon.
Bien sûr, ça ne suffit pas. Mais si on reconnaît la dignité, à ce moment-là, la revendication économique, elle est plus forte, elle est fondée, elle peut être plus reconnue. C'est pour cela que je pense que c'est décisif. Et d'ailleurs, c'est un point d'histoire. La Révolution française s'est faite pour la dignité. On n'a pas simplement voulu rabaisser les nobles. On a voulu dire que tous les Français étaient des nobles, que tous les Français devaient être des nobles. Et les révolutionnaires, ce qu'ils ont mis le plus d'acharnement à détruire, ce sont les écussons, les blasons, ce qui témoignait du fait qu'on appartenait à une race sociale différente des autres. Et ça, me semble-t-il, c'est essentiel. Quand la dignité est reconnue, l'économie, après, peut suivre.
Alors justement, cette question, elle est centrale et nous sommes finalement très bien dans une mairie où sur le fronton on retrouve ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Mais pour prolonger ce que disait Ambre à l'instant, Claude Bourdin est également parmi nous ici dans la mairie de Tours, président du collectif C'est au tour du peuple, ex-insoumis. Bonjour Claude et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez participé vous aussi au mouvement des Gilets jaunes, vous avez été candidat aux législatives pour la France insoumise.
Tout à fait. J'aurais une réflexion à soumettre et une question. Les épreuves, les incertitudes et les colères des citoyens sont de plus en plus vives, car les dirigeants politiques, issus pour la plupart de la technostructure, sont arrogants et déconnectés de la vie réelle. D'après M. Macron, l'arrêt de l'impôt sur la fortune et la baisse des taxes sur le revenu du capital devaient entraîner un ruissellement des plus riches vers les plus pauvres. D'après France Stratégie, cela n'a pas eu lieu et les inégalités sociales sont de plus en plus criantes. Depuis 2017, le coût des carburants et des énergies flambe et certains citoyens ne peuvent plus se chauffer et se déplacer. Les changements climatiques s'accélèrent et les mesures écologiques de la Convention citoyenne ont été peu retenues par le gouvernement. Une des revendications majeures des Gilets jaunes était la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Mais le gouvernement macroniste n'a pas daigné le prendre en compte. Donc ma question est, ne pensez-vous pas qu'il est temps de refonder une démocratie permanente qui permettrait au peuple de reprendre le pouvoir et de mettre en place de nouvelles règles démocratiques?
Merci Claude pour votre question, d'autant que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé et beaucoup écrit, oui. Pierre-Rosan Vallon.
Par essence, la démocratie est intermittente. C'est la démocratie tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais en fait, personne ne se satisfait de cela. La démocratie intermittente, elle est nécessaire pour l'élection. Mais la démocratie, ce n'est pas simplement l'élection. La démocratie, c'est le contrôle. La démocratie, c'est l'évaluation. La démocratie, c'est la délibération. Et donc, il faut faire vivre en permanence tout un ensemble de ce que j'appellerais des fonctionnalités démocratiques.
Qu'est-ce que c'est, des fonctionnalités démocratiques ?
Autrefois, c'était ce que faisait le Parlement. Le Parlement, son métier, c'était de surveiller les pouvoirs, c'était de le contrôler, c'était d'évaluer, c'était de mettre en jeu la responsabilité. Mais aujourd'hui, le Parlement, il a seulement pour fonction de dire « je soutiens » ou « je critique ». Et donc, c'est très limité.
Et justement, j'aimerais qu'on entende Claude, puisque Claude, vous y avez cru malgré tout à la démocratie représentative, puisque vous vous êtes présenté aux élections législatives. Je ne sais pas ce que vous ferez pour l'élection présidentielle, mais ces étapes de la vie démocratique que décrivait Pierre-Rosan Vallon à l'instant, une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, c'est ce qui vous rend insatisfait au fond ?
C'est pas suffisant, bien évidemment. Il faut faire vivre la démocratie au quotidien. Et il peut, par ces référendums décisionnels locaux, comme font d'ailleurs les Suisses avec les votations citoyennes, il faut qu'il y ait des initiatives, que ça vienne des citoyens et qu'on n'attende pas que ça soit pas descendant, parce que on voit bien que le pouvoir aujourd'hui, il est très vertical et qu'il y a un président de la République qui décide de tout. Et là, je pense que les Français ne veulent plus de ce fonctionnement démocratique, représentatif, et ils veulent participer pleinement. Et il va falloir peut-être passer à une 6e République, revoir les règles démocratiques, qu'on puisse ensemble créer des nouvelles règles pour faire société et faire revivre cette démocratie qui est au plus bas aujourd'hui.
Bon, ça en tout cas, on le verra dans 6 mois ou à peu près, Pierre-Rosan Vallon.
C'est pas simplement un problème de constitution, c'est aussi un problème de multiplier les formes démocratiques. Regardez, il y a eu l'expérience de la conférence citoyenne sur le climat. Elle n'a pas été suivie des effets qu'on espérait. Mais si on multipliait ce genre d'expérience, ça pourrait changer beaucoup de choses. Et je crois qu'il n'y a pas simplement une bonne solution. Il faut multiplier les expériences démocratiques et notamment évaluer les pouvoirs. Parce que le pouvoir prend des décisions, il mène des politiques, mais on les évalue trop peu. Le citoyen, ça n'est pas simplement celui qui prend la parole, qui a sa voix. Le citoyen, c'est aussi celui qui a l'œil sur les pouvoirs, celui qui surveille les pouvoirs. Donc, il faut trouver des pouvoirs de surveillance.
Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony.
Je pense qu'il faut essayer de penser une démocratie permanente, ou en tout cas une démocratie plus permanente. Et que, Pierre-Rosan Vallon le dit avec justesse, il y a de très nombreux outils pour penser cette démocratie plus permanente. La Convention citoyenne peut en être un des exemples. Il peut y avoir davantage de votation, il peut y avoir davantage de concertation. Ce qui se passe très souvent au niveau local est une excellente expérimentation de ce qui pourrait être fait au niveau national. Mais en même temps, il faut avoir la lucidité de reconnaître, et tous ceux qui font de la politique localement le savent très bien, que la majorité des citoyens ne veut pas que sa vie entière, tout le temps, soit consacrée à la chose publique. Et qui donc, il faut, dans le même temps, essayer de repenser ce que Pierre-Rosan Vallon a appelé la démocratie intermittente, c'est-à-dire la démocratie représentative. Ce n'est pas seulement une question d'institution, mais je crois que, dans le moment présent, c'est aussi une question d'institution. Et je dis ça alors que j'ai pendant longtemps été un des défenseurs de la Ve République, ce qui, à gauche, est peu courant. Je crois qu'il y a aujourd'hui une forme d'essoufflement de ces institutions, notamment depuis le quinquennat, avec une concentration du pouvoir qui est beaucoup plus importante et qui ne tient pas seulement aux hommes, qui tient au système lui-même, et qu'il y a aujourd'hui non seulement un déséquilibre accru entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais qu'à l'intérieur même du pouvoir exécutif, cette diarchie entre le président de la République et le Premier ministre ne fonctionne plus.
Et on va entendre justement le maire de Tours dans un instant, lui qui est confronté tous les jours et heure par heure, j'allais dire, à la question de la démocratie et de la vie citoyenne à l'échelle locale. Mais d'abord, Natacha Polony.
En un mot, la question démocratique me semble absolument centrale. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y tromper, c'est un ensemble de problèmes. Il y a la question institutionnelle, parce qu'indéniable, quand on regarde les institutions de la Ve République telles qu'elles ont été tordues au fur et à mesure, nous aboutissons à un système qui n'est plus objectivement démocratique, c'est-à-dire qui ne permet plus de faire émerger la volonté du peuple et qui, au contraire, peut maintenir des pouvoirs considérés comme moins légitimes ou ne l'étant plus tout à fait. C'est un premier problème. Mais le deuxième problème, à mon avis, me semble plus vaste, c'est la question du contournement progressif de la démocratie par des instances autres qui permettaient d'imposer un système économique. Moi, quand je pense à la question de l'individualisation, quand on m'explique que, en effet, il y a une atomisation de la société, c'est le résultat d'un processus. Je repense systématiquement à l'analyse de Margaret Thatcher qui disait « La société n'existe pas, je ne connais que des individus ». Et c'est pas un hasard si elle avait à la fois cette vision-là et l'idée, le fameux « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre politique possible, il faut déréguler l'économie, il faut absolument imposer une sorte de marché mondial de mise en concurrence générale, ça va avec. Et c'est pour ça que je pense que le mouvement des Gilets jaunes a été intéressant, parce que justement, au-delà de l'aspect individuel de la demande de dignité, il a fait ressurgir la lutte des classes. Il nous a rappelé que la lutte des classes, ça existait, et qu'il y avait des intérêts contradictoires, et que petit à petit, une part des citoyens avait été privée de leur voix, de leur capacité à se faire entendre. Et c'est pas un hasard non plus si une bonne part des slogans des Gilets jaunes, spontanément, de la part de gens qui n'étaient pas politisés, c'était de dire « nous sommes citoyens, nous sommes souverains ». C'est-à-dire qu'ils proclamaient le fait que c'était à eux de décider. Cette question-là, on ne l'a toujours pas réglée.
Pierre-Rosan Vallon.
On critique la Ve République, mais il faut voir qu'il y a un mouvement mondial qui va vers la concentration du pouvoir exécutif. Regardez l'Angleterre. L'Angleterre est le pays qui illustre la force du Parlement. Mais aujourd'hui, le Parlement anglais, il est presque aussi faible que que le Parlement français. Par exemple, en matière budgétaire, c'est le Premier ministre qui décide absolument tout. Le Parlement a juste à dire oui ou non. Donc, il y a une évolution générale vers la concentration du pouvoir exécutif. Et c'est contre cela qu'il faut lutter et trouver de nouveaux moyens d'équilibrer le pouvoir exécutif.
Gilles.
Oui, deux mots. Qu'il y ait une concentration plus forte du pouvoir exécutif à peu près partout, c'est incontestable. Il y a aussi, et même dans un pays comme l'Allemagne, quand on regarde les dernières élections, une personnalisation beaucoup plus forte qu'auparavant, non seulement personnalisation pendant la campagne, mais personnalisation au sens où les résultats de la campagne elle-même dépendent davantage des candidats que des partis, même dans un pays dans lequel les partis demeurent extrêmement puissants. En revanche, sur l'exemple britannique, ce que vous dites sur le budget est juste. En revanche, ce qui s'est passé sur le Brexit, qui n'est quand même pas un petit événement, on voyait la place centrale du Parlement. Où se passait le débat sur le Brexit, c'était au Parlement. Je ne sais pas si les auditeurs et vous qui êtes présents avez vu ce documentaire qui a été diffusé sur la chaîne parlementaire, qui était au cœur de la Chambre des communes pendant tout le débat sur le Brexit. C'était absolument fascinant de voir que c'est là que ça se passait et que l'exécutif lui-même était tenu de venir s'expliquer et de tenir compte de ce qui se passait au Parlement. Ça fait longtemps que tel n'a pas été le cas en France.
J'aimerais qu'on entende Emmanuel Denis, le maire de Tours. Monsieur le maire, Europe Écologie Les Verts, comment est-ce que vous percevez ces questions sur le fonctionnement de notre démocratie telles qu'ils viennent d'être évoquées à l'instant? Est-ce que c'est à l'échelon local que vous pensez qu'on est le plus efficace?
En tous les cas, c'était une des promesses de notre équipe quand on a été élu, puisque nos trois promesses étaient la solidarité, l'écologie et la démocratie. Et donc, on a nommé, pour faire vivre cette démocratie permanente, on a nommé une adjointe à la démocratie permanente qui donc veille sur deux choses à la fois. C'est la démocratie dans le fonctionnement en interne de la mairie, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui sont concentrés autour du maire. Et moi, ce que je ne souhaitais pas être un maire... autocrate et qui décide seul. Donc, on continue à fonctionner de manière très horizontale avec des débats chaque semaine où toutes les questions un peu épineuses sont abordées. Et ça peut parfois durer des heures, mais on débat jusqu'à avoir un consentement sur les décisions que l'on prend et ça continue à fonctionner très bien. Et puis après, il y a bien sûr cette démocratie permanente qu'on essaye de mettre en œuvre dans la construction de la ville. Alors là, plusieurs sujets. D'abord, la construction des nouveaux quartiers. Sur lequel on a engagé 5 ou 6 chantiers différents sur la ville. Et puis, à l'avenir, on aura aussi, pour le choix des investissements, la mise en place d'un budget participatif où les habitants pourront décider, monter des dossiers et voter aussi finalement les projets qui seront mis en œuvre par la collectivité. Donc, un sujet pour nous qui est au quotidien.
Et on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir, de savoir ce que vous pensez également de l'élection présidentielle et puis que vous nous expliquer comment est-ce que vous avez réussi à réunir la gauche quand on voit l'éclatement de la gauche, ces gauches qu'on dit irréconciliables depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui relève de la magie et d'une particularité de cette belle ville de Tours. Et donc, vous nous direz ça juste après le journal de 13h. Le grand face-à-face XXL depuis Tours continue.
Le grand face-à-face, émission spéciale en public à Tours. Ali Badou.
Le grand face-à-face version XXL en public continue et je salue le public présent ici dans la salle des mariages de la mairie de Tours. Public nombreux, motivés. Le micro va continuer de circuler dans la salle pour que vous dialoguiez avec Gilles Finkelstein, Natacha Polony et notre grand invité Pierre Rosanvallon qui publie Les épreuves de la vie aux éditions du Seuil. Il y a une question que nous abordions avec vous, monsieur le maire Emmanuel Denis, juste avant le journal de 13h. C'était la question de la gauche. En l'occurrence, Pierre Rosanvallon a participé, a réfléchi depuis des années à la question de la gauche à la Fondation Jean Jaurès. Il y a donc ces études sur la fragmentation, l'explosion du paysage à gauche. Expliquez-nous cette particularité ici à Tours. Comment se fait-il, monsieur le maire, que la gauche soit réunie ici? Je vous pose la question en souriant parce que quand on met à côté PS, PC, LFI, Europe Écologie Les Verts, on se dit mais... Comment a-t-il fait tout simplement ?
Effectivement, on a réussi à faire finalement le congrès de Tours à l'envers, c'est-à-dire qu'on a recomposé l'ensemble de la gauche en rajoutant en plus les écologistes. Mais voilà, on était à Tours, alors il n'y a qu'ici qu'on pouvait le faire.
Oui.
Au départ de ça,
le congrès de Tours, c'est l'histoire d'un divorce.
C'est ça.
Mais dans la salle des mariages, vous avez donc.
C'est pour ça qu'il est à l'envers et que on a fait le chemin inverse, mais on est parti de loin. En 2017, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait une défiance très forte des politiques, parce que moi, qui étais, par exemple, encarté depuis quelques années, j'ai dû prendre la première fois une carte politique en 2013. Quand j'expliquais ça aux gens autour de moi, je voyais tout de suite les yeux, le regard qui changeait, et je me suis dit, mais comment, comment on sort de ça? Et donc, plutôt que de partir avec les partis bien en tête en se disant, voilà, on va essayer de se regrouper à l'ancienne, de se mettre d'accord sur des équilibres, etc., j'ai fait tout l'inverse et avec un certain nombre d'amis, on a décidé de faire un mouvement collectif, un mouvement citoyen, qu'on a appelé l'écogitation citoyenne, dont le premier ouvrage aura été de travailler sur le programme. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les personnes, les acteurs en avant, mais d'abord le programme. Et chemin faisant, une fois qu'on a attiré effectivement à nous des personnes qui n'étaient pas jusque-là intéressées à la politique, mais finalement intéressées à la vie de leur ville et à un programme sur la ville, eh bien voilà, ça crée une vraie dynamique. Et donc les partis politiques de l'ensemble de la ville nous ont regardés intéressés en se disant, bah, voilà, il y a une vraie dynamique du côté de ces cogitations citoyennes. Et c'est comme ça qu'au final, on a réussi, je passe quelques étapes, mais petit à petit,
regrouper
effectivement
gauche.
L'ensemble de l'arc de la gauche, avec bien sûr cette promesse aussi de renouvellement, puisque il y a tous les partis politiques, mais il y a aussi 50% de personnes qui sont non encartées, et puis au moins 70% de personnes qui n'avaient pas du tout exercé de mandat auparavant. Donc un vrai renouvellement, un vrai souffle démocratique, et puis le rassemblement de l'arc de la gauche.
Pierre Rosanvallon,
c'est
la recette miracle.
C'est une démarche vertueuse, mais au niveau local.
Mais pourquoi ?
Parce que au niveau national, ce qui prime, ce sont les personnes. Ce sont les personnes qui veulent l'emporter. Donc, ce qui est une recette positive au niveau local, malheureusement, est beaucoup plus difficile au niveau national.
Gilles Finkelstein, puisque vous avez scruté de près le paysage à gauche, et puis Natacha Polony.
Oui, quand Pierre Rosanvallon dit ce sont les personnes qui veulent l'emporter, dans la situation actuelle, c'est quand même une perspective qui est assez illusoire, donc ça ne doit pas être que ça. Il y a aussi quand même peut-être au niveau national des divergences de fond qui demeurent.
Quand vous parlez d'illusion, c'est par rapport au sondage d'intention de vote des candidats de gauche à la présidentielle ?
Oui, dans l'enquête qui est publiée aujourd'hui, Yannick Jadot est à 9%, Jean-Luc Mélenchon à 8%, Anne Hidalgo à 5%. Le total des voix de gauche est à 28%, donc on a une gauche qui est à la fois rétractée, plus faible qu'elle ne l'était auparavant, et divisée, plus divisée encore que les fois précédentes. Dès lors, il y a, je crois, deux scénarios. Il y a un premier scénario, c'est que les choses restent en l'état, il n'y a pas eu d'accord qui a été possible au sommet, il n'y a eu aucun processus de convergence autour d'une candidature commune, même pour une partie de la gauche. Et il y a un émiettement qui aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième scénario, c'est que ce sont les électeurs, pendant la campagne elle-même, qui convergent vers l'un ou l'une des candidats, et que cette convergence, dans la mesure où le seuil pour se qualifier au second tour peut être plus faible que ce que l'on pensait il y a quelques mois, que ce processus de convergence autour d'un candidat crée par lui-même une dynamique et que quelqu'un émerge et redistribue les cartes.
Mais ça reste malgré tout illusoire.
Non, ça c'est pas illusoire, c'est hypothétique.
Natacha Polony, illusoire, hypothétique.
Je crois que surtout ce que nous observons dans la vie politique française, c'est le décrochage entre la démocratie locale et le pouvoir national. Et ça devrait nous inquiéter parce que ça nous raconte quelque chose de très important. La position d'un maire aujourd'hui en France, elle est assez puissante. Un maire a une capacité d'action. Il peut changer réellement beaucoup de choses. Et la définition de la politique, mais c'est justement la possibilité de changer la vie. pour reprendre le titre du programme commun de la gauche, et c'est ce choix de ce slogan était absolument essentiel.
Oui, changer la vie.
Mais bien sûr, changer la vie. Sinon, ça veut dire que 1789 n'a eu aucun sens, puisque 1789, c'est ce moment absolument extraordinaire où les révolutionnaires inventent le peuple souverain, c'est-à-dire le peuple capable de décider collectivement de son destin. Et la politique, ça sert à ça, la délibération pour décider ensemble de ce destin. Or, ce qui est possible aujourd'hui à l'échelle locale, où on voit que des actions peuvent être menées, la question est de savoir si c'est encore possible à l'échelle nationale. Je parlais tout à l'heure d'instances qui ont petit à petit contourné la démocratie et qui ont fait en sorte qu'il ne soit plus possible d'agir et de changer la vie, dans le sens où on a aujourd'hui des représentants qui, quel que soit leur parti politique, mènent la même politique depuis des décennies. Et c'est ce qui explique l'abstention, c'est ce qui explique la défiance majeure et, de la part de certains citoyens, une forme de désaffiliation. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi on aboutit à cela. Et je pense que le courant qui s'est imposé depuis la fin des années 70, qui a consisté à considérer que la globalisation, et je dis bien la globalisation et pas la mondialisation, parce que la mondialisation c'est un état de fait, l'augmentation des échanges, mais que la globalisation, c'est-à-dire la création d'un grand marché mondial uniforme, fondé sur des échanges et sur la division mondiale du travail, sur la mise en concurrence d'économies qui n'avaient pas les mêmes contraintes, sur la mise en concurrence de tous les travailleurs à l'échelle du monde, c'est-à-dire qu'en gros, les travailleurs des pays occidentaux qui avaient acquis des droits, qui avaient acquis des protections, se sont retrouvés mis en concurrence avec des gens qui n'avaient aucune protection sociale. Et de même, d'ailleurs, sur le plan environnemental, nous avons des normes qui est pour respecter l'environnement, pour le protéger, mais la concurrence avec des pays qui n'ont aucune de ces normes, tout cela a petit à petit vidé de sa substance la politique. Et je crois que c'est cela aujourd'hui qu'il faut poser sur la table. La question, on peut appeler ça la question de la souveraineté, c'est tout simplement la question de la démocratie, c'est-à-dire de la possibilité pour les citoyens de décider de leur destin et de choisir quelles vont être les mesures qui vont être prises.
Voilà comment Natacha Polony pose la question sur la table. Pierre-Rosan Vallon, que lui répondez-vous avant d'entendre justement les jeunes qui sont engagés, eux, en politique, et on leur demandera s'ils ont l'intention, le rêve, la perspective un jour de changer la vie.
Il y a deux choses. La démocratie, c'est de changer la vie quotidienne. Et pour cela, il y a des agents essentiels. Ce sont les associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la vitalité de la société, c'est pas simplement les institutions, c'est même pas simplement une mairie positive, c'est toute la vie d'associations qui améliorent le quotidien, qui sont des producteurs de solidarité, qui fabriquent du lien social. Donc là, il y a toute une richesse de la démocratie française dont on ne parle pas assez. Car s'il n'y avait pas tout ce tissu associatif, eh bien, les choses se passeraient bien plus mal qu'aujourd'hui.
J'aimerais qu'on entende un responsable local des jeunes avec Macron. Après tout, c'est vrai que c'est un homme politique, Emmanuel Macron, qui promettait la révolution lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2016-2017. Loïc Guilpin, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes prof de physique-chimie au lycée Choiseul, ici à Tours. Et que pensez-vous justement de la manière dont on a décrit depuis le début de l'émission la verticalité du pouvoir, un pouvoir aux mains de technocrates qui au fond mènent dans l'ensemble la même politique et la perspective bouchée, l'impossibilité d'imaginer une vie différente?
Alors, je pense que si on se remet en 2017, la promesse d'Emmanuel Macron c'était d'aller à la rencontre des citoyens. Ça a été fait avec la Grande Marche. Alors, je sais pas si les gens se souviennent. On avait été frappé à la porte de tout, enfin, de.
Pendant la campagne présidentielle.
Voilà,
il y avait
la campagne. Voilà. Et le programme a été issu de ces demandes-là. On avait fait la même chose pour les élections européennes. Et je pense que là, c'est ce qu'on va refaire cette année pour faire un bilan avec les citoyens et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, puisque tout n'a pas fonctionné. On en est conscient. Et du coup, voilà, je voulais poser ma question à Monsieur Rosanvallon. Vous parlez de la démocratie des épreuves, en prenant compte des réalités vécues par la population. Et ma question, c'est des émotions notamment. Il y a autant d'émotions que de citoyens. Si on prend en compte un certain type d'émotions, est-ce qu'on ne peut pas se couper d'une frange de la population qui aurait des émotions contraires ou au moins diverses de celles que l'on choisit? Et une autre dernière question, il y a des émotions qui sont collectives, je pense à des émotions parfois négatives pour les attentats où on a réussi à unir la France, et des émotions positives comme en 98 avec la génération Black Blanc Beurre. Je voulais savoir si vous pensez que ce genre d'émotion peut revenir, les émotions positives, voilà, autour d'événements sportifs comme Paris 2024 ou d'autres événements.
Merci. Loïc.
Oui,
Pierre-Rosanvallon.
Quand on gagne un match, il y a vraiment de l'émotion collective. Seulement...
Quand on est dans l'équipe victorieuse.
Quand on est dans l'équipe victorieuse. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a aussi énormément de bagarres autour des stades. Hein. Donc il ne faut pas...
Parfois même dans les stades.
Il ne faut pas non plus trop d'illusions sur ce point. Mais il y a des émotions positives. Mais il y a aussi des émotions destructrices. Des émotions d'impuissance. Et... Le but de la politique, c'est d'aider chacun à trouver le moyen de pouvoir agir, d'être puissant. Et donc, c'est de renverser l'impuissance. Et renverser l'impuissance, c'est écouter les gens. Et je pense que s'il y a quelque chose qui manque dans la politique actuelle, c'est une écoute de la société. Comprendre la société, c'est la prendre à cœur, c'est la prendre à corps, c'est descendre en elle, c'est la regarder, c'est la pénétrer, c'est être attentif, c'est l'écouter. Or, on a trop souvent...
Vous en parlez comme d'une relation amoureuse, Pierre-Rosanvallon?
Oui, je pense que...
J'exagère à peine, mais...
Non, je pense que la vraie politique, il y a une dimension d'étreinte de la société, de vouloir... permettre à cette société de se réaliser, de se reconnaître, de prendre force, d'être puissante. C'est cela, la politique. Et la dimension positive d'incarnation, c'est cela. Et cela, il faut l'apprécier.
Et c'est ça qui se joue pendant la campagne présidentielle et pendant l'élection d'avril prochain?
En partie.
En partie.
Celui qui va gagner... C'est celui qui
ou celles
qui donneront le sentiment d'incarner et de comprendre, de porter les réalités. Et pas simplement de donner des leçons ou de surfer sur des émotions.
Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony.
Oui, Loïc disait tout à l'heure qu'il y avait différents types d'émotions, et c'est vrai que depuis le début, on s'est concentré beaucoup sur des émotions qui étaient des émotions négatives. On a parlé d'incertitude, d'inquiétude, de fatigue, de colère, de révolte. Quand on pose aux Français la question de savoir quels sont les sentiments qui le caractérisent les mieux dans la période, il y a cela, mais il y a devant la révolte et la colère, l'espoir, la confiance, le bien-être et la sérénité aussi. Donc, il faut évidemment avoir une vision équilibrée de ces émotions. Et puis, deuxième remarque, pour faire le lien avec la question...
La France a été championne du monde aussi en 2018. Non, mais depuis 1998, il y a eu une autre belle victoire et d'autres belles émotions. Pardon, alors, Gilles, de vous avoir interrompu.
Alors, oui, deuxième point pour faire le lien avec la question précédente. Beaucoup de Français ont le sentiment que le pouvoir local est puissant et que le pouvoir national est évanescent. On se retrouve, je plagie la formule que l'ancien Premier ministre britannique avait utilisée à propos de l'Europe, on a le sentiment que le niveau national est trop grand pour les petits problèmes et trop petit pour les grands problèmes. Et le risque, on va le voir, il est là, présent dès la prochaine présidentielle, c'est que la participation à ce scrutin soit beaucoup plus faible que pour les élections présidentielles précédentes. Or,
mais comment parler d'un pouvoir évanescent? Et pardon Gilles de vous interrompre, mais en l'occurrence, le président de la République actuel, on l'a surnommé Jupiter, on a dit qu'il exerçait un pouvoir vertical, particulièrement pendant la crise sanitaire.
Oui, on peut à la fois avoir le sentiment que le pouvoir est concentré et qu'il est évanescent. Les deux ne sont pas nécessairement contradictoires, c'est que c'est concentré, mais il y a en réalité peu de pouvoir parce que les pouvoirs ont été transférés ailleurs. Or, je pense, et je termine par là, que c'est une erreur. On l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie que ce qui se passait au niveau de chaque pays était une illustration de ce qui se passait au niveau national restait important. Et si vous regardez dans la durée, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Angela Merkel, pendant 16 ans, a été chancelière. Quand une politique est conduite dans la durée, avec continuité, eh bien, à l'arrivée, les résultats pour un pays sont différents. Et donc, ce qui se passe, y compris encore au niveau national, demeure extrêmement important.
Natacha Polony.
J'ai l'impression que la question de Loïc tournait autour d'une question assez problématique et fondamentale, puisque c'était la question de l'articulation entre l'individuel et le collectif, savoir si les émotions collectives sont la somme des émotions individuelles, de même que c'est la vieille question là aussi de la démocratie, savoir si le bien commun est la somme des intérêts particuliers ou non. Et je pense que au cœur de ce problème-là, il y a la question de la communauté politique. Je suis toujours un peu inquiète quand notre premier réflexe est de nous dire que les émotions collectives qui nous montrent que nous avons une appartenance commune, ce sont les grands événements sportifs. C'est-à-dire, si nous n'avons plus que les Coupes du Monde pour considérer que nous formons un peuple...
Je vois beaucoup de personnes inquiétées dans la salle.
Je pense que nous avons des raisons de nous inquiéter. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir si nous formons, si nous arrivons encore à former une communauté politique, c'est-à-dire une communauté de citoyens qui vont délibérer en commun et qui vont essayer justement de déterminer le bien commun. J'ajoute juste une chose. Quand Aristote définissait la démocratie, alors évidemment c'est un peu ancien, hein, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, mais il définissait le citoyen comme étant non pas forcément celui qui va se comporter en citoyen, voter, etc. Bien sûr, c'est celui qui peut gouverner. Et la question est de savoir aujourd'hui, à travers le grippage de la démocratie représentative, combien de Français aujourd'hui considèrent qu'ils pourraient potentiellement être parmi les représentants. Hélas, c'est très peu de gens. Et la plupart des gens, je suis sûre que si on faisait un sondage dans la salle, la plupart des gens ne vont pas dire spontanément qu'ils pourraient se retrouver un jour parmi les représentants. Or, c'est un problème. Il ne peut pas y avoir de véritable démocratie représentative qui fonctionne si ce sont toujours les mêmes qui représentent et toujours les mêmes qui sont représentés. Et s'y ajoute une problématique de classe quand il n'y a qu'une seule classe sociale qui est parmi les représentants et que les autres sont toujours du côté des représentés. Cette question-là, elle doit être posée pour un renouvellement justement de ce qu'on appelle les élites, parce que sans cela, il ne peut plus y avoir de communauté politique.
Personne ne veut être président de la République dans la salle, même parmi les lycéens de première et de terminale qui sont... Ah si, j'ai vu une main se lever. Une main se lever, on vous donnera la parole tout à l'heure que vous nous expliquiez cette belle ambition. Et il est temps de commencer votre campagne, puisque c'est dans 6 mois. Je ne sais d'ailleurs pas si vous avez l'âge pour vous présenter, mais on verra ça tout à l'heure. J'aimerais, Pierre-Rosan Vallon, que vous répondiez à Natacha Polony avant de redonner la parole à la salle et à Benoît Pierre.
Oui, on peut dire aujourd'hui que le sens de la communauté politique est affaibli. Quand est-ce qu'il a été très fort ? Il était très fort quand la vie commune était en danger. Il était très fort pendant les guerres. Il était très fort dans les moments où on pensait qu'on pouvait disparaître. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit des épreuves très fortes. Regardons l'affrontement au problème du climat, de l'environnement. Mais ces épreuves ne produisent pas de la communauté. Pourquoi ? Ça, c'est le grand mystère contemporain.
Vous n'avez pas de réponse ?
Non.
Non.
Parce que il y a un divorce entre la connaissance objective des problèmes et la conscience politique. Si on demande aux Français, pensez-vous que l'avenir du climat est catastrophique ? 90% va dire oui. Mais dans nos comportements quotidiens, nous faisons comme si c'était non. Il y a un divorce entre notre intelligence abstraite et notre sens de la communauté concret.
Pardon, mais
Natacha Polony.
Il me semble que la question du climat est assez intéressante justement pour répondre à cela et pour savoir comment on peut repolitiser la question. Parce que la seule façon de refaire une communauté politique, c'est justement de nouveau prendre conscience que nous pouvons changer les choses. Or, si on présente cette question du climat comme une question reposant uniquement sur les individus, en effet, ça ne peut pas marcher et il n'y a pas de possibilité pour chacun de prendre conscience qu'il va changer quelque chose. Parce que, de fait, chaque individu seul ne pourra pas changer les choses. En revanche, il y a une problématique politique dans le sens où, par exemple, la question dont je parlais tout à l'heure de la division mondiale du travail, elle est liée à la question du climat. C'est-à-dire que tant qu'on considérera qu'il doit y avoir à l'autre bout de la planète une production d'objets de consommation et que nous sommes les rouages de ce système économique et que nous sommes là pour consommer, pour faire marcher la machine économique, en effet, nous abîmerons la planète. Donc si nous repensons le système d'une autre manière, si nous posons les problèmes écologique de façon politique, nous reformons une communauté dans laquelle nous allons arbitrer ensemble et décider ce que nous voulons ou pas. En revanche, si en effet on présente tous ces problèmes-là comme des problèmes individuels, il n'y a plus aucune possibilité de les penser collectivement.
Bien sûr, c'est pas des problèmes individuels. Bien sûr qu'ils sont collectifs. Mais le problème est de savoir à quel moment il y a un basculement des politiques. Ma vision serait peut-être une vision très pessimiste qui dise il faudrait une catastrophe écologique énorme pour qu'on change. Regardez les États-Unis, l'ouest des États-Unis. Ils ont vécu les choses les pires du point de vue de l'eau, du point de vue du feu. Et oui, ils ne font rien.
Gilles Finkelstein.
Alors, ce que vous venez de dire est très important. C'est-à-dire, quand on regarde la hiérarchie des préoccupations des Français, les questions environnementales sont aujourd'hui parmi les plus importantes. Dans l'enquête qui est publiée aujourd'hui, c'est la deuxième priorité après le pouvoir d'achat. Et c'est la deuxième priorité parce qu'il y a à la fois les rapports du GIEC qui, année après année, montrent que les choses se dégradent, mais parce qu'il y a eu aussi, et notamment cet été, un certain nombre d'événements climatiques extrêmes que les Français ont vus et parfois ont éprouvés. La question est de savoir comment une préoccupation centrale devient une question politique centrale, parce qu'il n'y a pas de lien mécanique entre les deux. Il n'y a pas de lien mécanique entre les deux parce que la magie de la démocratie ou l'objet de la démocratie, c'est de donner une forme à une question. Donner une forme, c'est-à-dire à disposer de récits de la société, de modèles de société qui soient suffisamment différents à partir de cette question du climat dans laquelle les Français peuvent choisir. C'est illustré à partir de propositions concrètes qui soient compréhensibles par les Français. Là aussi, comment se présentent les choix? Et c'est pour ça qu'on peut se trouver dans une situation dans laquelle il y a une préoccupation importante et qui disparaît ou en tout cas est marginalisé dans le débat public. Et l'un des enjeux de la campagne qui vient, c'est de faire de cette question qui est une préoccupation centrale, un enjeu central aussi.
Bah justement, on avait envie d'entendre l'une des personnes ici dans la salle des mariages de la mairie qui est en charge de la transition écologique, de la transition énergétique. Benoît Pierre, président du syndicat mixte de l'agglomération Tourangelle, bonjour.
Bonjour et
merci d'être
à tous.
Avec nous. Bon.
Merci. Alors, je crois qu'il y a un fait historique, socio-culturel majeur qu'on n'a pas totalement évoqué, même si on l'a touché un peu du doigt, c'est la question de l'hyper-émotionnalité, du sensoriel qui intervient à tout moment et qui, me semble-t-il, est une des explications qui explique aujourd'hui ce que Natacha Polony avançait, l'atomisation de la société, ce délitement aussi, cette critique permanente des élus. Et si on prend l'exemple du climat, et ma question portera sur cela, on a le rapport du GIEC. Il est là. On sait ce qu'on doit faire. Mais la question, c'est comment on doit le faire par rapport au mode de vie, par rapport aussi aux besoins, aux attentes des populations. C'est clair, hein, on peut très bien faire. On met une taxe carbone sur l'utilisation de la voiture à essence. Je crois que d'ailleurs, ça a généré dans l'hyper-émotionnalité aussi, dans la réception des mouvements de révolte, de contestation, d'indignation.
Mais comment avez-vous vécu la démission de Nicolas Hulot, par exemple, puisque c'était tôt dans le quinquennat, c'était en 2018?
Alors, c'est toute la difficulté, justement, que je viens d'évoquer. C'est la difficulté, lorsque vous êtes en gouvernance, de pouvoir réaliser, intégrer un défi qui est un défi total, un défi vraiment urgent, dans un ensemble de politiques publiques. C'est le lien, par exemple, entre l'enjeu climatique, l'enjeu écologique et l'enjeu social. On sait qu'il peut y avoir des connexions entre les deux. Donc, ma question, elle porte là-dessus, sur cette hypersensionnalité, sur la désinformation permanente, qui explique aussi beaucoup de comportements épidermiques et de réactions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'indigner, l'indignation est bonne, mais elle doit procéder d'un esprit critique. Et je pense que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est le retour d'une forme de raison politique. Une raison politique, et monsieur le maire a parlé tout à l'heure de la démocratie permanente, je conteste en tant que conseiller municipal également sa démocratie permanente. Pourquoi je la conteste ? Parce que justement, elle n'intègre pas le citoyen, elle n'intègre pas l'expertise qui permet, comme dans la Convention du climat, la Convention du climat n'a pas abouti à suffisamment de choses, je vous l'accorde, mais écoutez ceux qui étaient dans cette Convention du climat. Ils disent que c'était une bonne Convention du climat parce que des experts étaient là pour accompagner, expliquer, invoquer aussi la question du droit et qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres qu'on ne pourra pas faire.
Vous étiez du côté de l'aile gauche d'Emmanuel Macron, on peut le dire de manière aussi simple ?
Oui, comme beaucoup de macronistes.
Et justement, non, mais c'est juste pour savoir d'où vous parliez et pourquoi vous interrogiez justement sur cette question-là précisément et la manière dont elle a été traitée, Pierre Rosanvallon.
Ben, je crois que la Convention citoyenne a été une très bonne expérience de la délibération du rapport des citoyens aux experts, à la réflexion. Le grand problème, c'est quand vous êtes 150, que vous travaillez pendant des semaines et des semaines, vous lisez beaucoup, vous rencontrez des gens. Comment communiquer cette expérience à tout le monde ? Eh bien, on peut dire que les 150 membres se sont enrichis, ont compris beaucoup de choses, mais ils n'ont pas réussi à le communiquer à tous les citoyens. Et pour moi, ça, c'est le grand enjeu de ces expérimentations démocratiques. C'est trouver la façon de faire passer cet enrichissement d'un petit groupe à la société tout entière.
Gilles Natacha, et j'aimerais qu'on entende les lycéens qui sont venus assister, participer à l'émission. Gilles ?
Oui, juste d'une phrase. Il y a la question de l'enrichissement, de la transmission du petit nombre au grand nombre, c'est-à-dire des 150 citoyens à l'ensemble des Français, et il y a la question de l'articulation entre les citoyens et les experts, et ce qui s'est passé pendant la Convention citoyenne en était une excellente illustration. Parce que sur un sujet qui est le sujet qui a été à l'origine, ou un des sujets qui a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, qui était l'augmentation des taxes sur l'essence, tous les experts qui venaient devant la Convention disaient « il y a besoin d'une taxe carbone ». Et la conclusion des citoyens était « non ». Il y a 149 mesures qui changeraient radicalement notre modèle de société, mais la taxe carbone, en tout cas la taxe carbone au niveau national, la réponse était non. Et donc, il y a cette articulation à faire et les citoyens ne sont plus convaincus seulement parce qu'ils ont entendu des experts, y compris si les experts sont convergents sur un sujet, parce que là aussi, ça se heurte à ce que Pierre Rosanvallon appelle les épreuves de la vie.
Natacha ?
Oui, j'ajouterais que sur la Convention climat spécifiquement, le fait que les dispositions de cette convention climat n'aient pas été appliquées ne vient pas des citoyens qui n'auraient pas accepté parce qu'ils n'auraient pas été enrichis. Ça vient du fait que le gouvernement a décidé finalement de ne pas appliquer ces dispositions. C'est pas du tout la même chose. En revanche, on ne saura pas si les citoyens auraient adopté ces mesures prônées par la convention climat. Mais c'est vrai que ça pose cette question absolument essentielle de la place des experts dans une société démocratique. Puisque la question de la reconnaissance, qui est au cœur de votre livre, Pierre Rosanvallon, cette question de savoir, de cette idée qu'une voix vaut une voix en démocratie, elle se pose de façon beaucoup plus complexe dans un espace comme le nôtre qui, à travers les réseaux sociaux, justement, déstabilise le rapport entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, entre les experts et les citoyens. Et finalement, je pense, pour ma part, qu'il y a eu une dérive depuis quelques décennies sur le rôle des experts jusqu'à aboutir à ce que certains ont appelé l'épistocratie, c'est-à-dire en fait le gouvernement par les experts. C'est-à-dire que dans une démocratie qui fonctionne, il y a des gens qui savent et ils doivent éclairer les citoyens. C'est ce qu'a donné la Convention pour le climat. Et les citoyens ensuite décident. En revanche, il peut y avoir très facilement, et c'est ce qui s'impose dans nos sociétés, un glissement où on considère que parce que le monde est complexe, eh bien ce sont les experts qui doivent décider et qui vont faire le bien des citoyens malgré eux. Ça ne s'appelle plus la démocratie. Et je pense que dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas que de l'émotion, il y avait aussi cette idée que la voix des citoyens n'était plus entendue et qu'ils avaient leur mot à dire, d'autant plus qu'il y a eu, et là aussi ça rejoint ce qu'explique Pierre Rosanvallon sur le sentiment d'injustice, il y a eu ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire on vous impose un système où vous devez prendre votre voiture, vous en êtes dépendant, et puis on va vous expliquer que vous êtes responsable de la fin du monde. Ça ne peut pas passer.
J'aimerais qu'on entende justement les représentants des générations à venir et ceux qui sont au premier chef concernés par les questions d'écologie et de fin du monde, ceux à qui nous devons la responsabilité de laisser une planète habitable, les lycéens de Saint-Gatien à jouer les tours. Salut à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes une vingtaine ici. Et Léandre, vous vouliez intervenir, vous êtes en terminale.
C'est ça. C'est ça.
Fan d'Orelsan ?
Oui, plus ou moins. Ouais. Fan de plein de trucs, mais dont Orelsan.
Qui ne l'est pas.
Et fan aussi de, bien que j'adore écouter du Michel Berger aussi, et je trouve que c'est hyper intéressant aussi pour nous, les jeunes, de s'intéresser à ce genre de problème dont vous parliez tout à l'heure, tout ce qui est écologie, environnement. Et restons dans le thème de la musique. Du coup, je ne sais pas si vous êtes tous entendu parler de la série qu'a réalisé le frère d'Orelsan, Clément Contentin, sur la vie d'Orelsan.
Documentaire génial, plusieurs épisodes.
Exactement. Montre jamais ça à personne. Et d'ailleurs, dans un des textes d'Orelsan, dans San, il dit « Les temps changent, les gens changent, mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. » On voit que les jeunes ne se situent pas dans l'offre politique, qui n'a jamais été vraiment leur intérêt premier. Est-ce les jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique ou à la politique qui ne portent pas de considération pour les jeunes?
C'est une bonne question. Vous êtes en âge d'aller voter?
Non. Et je ne serai pas en âge l'année prochaine.
Vous ne serez pas en âge l'année prochaine non plus.
Ça joue à des mois.
Pierre Rosanvallon.
Ça montre que la politique, c'est pas simplement les institutions. La politique, c'est aussi une culture politique. Une culture de ce qui produit du commun. Et c'est pour cela que la chanson, la poésie, compte beaucoup, parce que ça produit du commun et ça joue un rôle essentiel dans la vie des gens pour ça.
Et pourquoi pas la politique? Pourquoi est-ce que la politique intéresse si peu des lycéens, par exemple, aujourd'hui? Est-ce que c'était différent auparavant?
C'est une définition de la politique, peut-être. Si la politique, c'est les partis, si la politique, c'est les discours lointains, c'est normal que ça n'intéresse pas. Mais si la politique, c'est réfléchir à l'avenir de la société, si la politique, c'est réfléchir à la justice, à l'égalité, alors là, ça peut intéresser.
Est-ce que certains d'entre vous ont participé aux marches pour le climat, par exemple? Est-ce que vous avez suivi, écouté les discours qu'ont pu prononcer des personnes comme Greta Thunberg? Est-ce qu'elle vous a parlé? Est-ce qu'elle vous a touché? Et est-ce que vous vous êtes reconnu dans son combat, qui n'était pas un combat forcément politique au sens électoral du terme? Qui veut répondre? Léandre, toujours?
J'ai pas écouté les discours entiers de Greta Thunberg, mais à travers mon intérêt pour la politique et pour les questions de jeunes, comme celle-là, celle de l'environnement, elle montre vraiment l'indignation que nous on peut avoir les jeunes et que les politiciens n'ont pas forcément. On parle beaucoup de politique, on parle beaucoup d'environnement, pardon, dans la politique, mais c'est parler pour parler, et comme le dit. Comme dit Greta Thunberg, c'est du bla 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 bla, et il n'y a pas forcément d'action qui se met en place, et elle a raison dans ce qu'elle dit, et les politiques n'ont pas forcément raison de pas trop écouter justement ce qu'elle dit.
Gilles Finkelstein.
Oui, Léandre avait formulé deux hypothèses. Est-ce que ce sont les jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique? Ça, c'était la première hypothèse. De fait, les jeunes votent peu, ils votent
moins encore et dans des proportions importantes que le reste de la population, mais ils s'engagent beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'engagent de manière différente de, non pas de leurs aînés d'aujourd'hui, mais de leurs aînés ou même des jeunes d'hier, c'est-à-dire dans ce que Pierre Rosanvallon évoque aussi dans son livre, il s'engage davantage sur des causes, celles du climat ou sur d'autres, et il s'engage davantage de manière temporaire que de manière permanente, comme on le faisait dans les partis ou dans les syndicats auparavant. Et puis la deuxième hypothèse qu'évoquait Léandre, c'est est-ce que ce sont les politiques qui ne s'intéressent pas aux jeunes ? L'impression que j'ai, c'est que les politiques s'intéressent aux jeunes en tant que figure de l'avenir, et donc il faut parler aux jeunes, et parlant aux jeunes, on parle aussi à leurs parents et à leurs grands-parents. Le problème est que, si on dit les choses de manière extrêmement crue, eh bien, les jeunes ne pèsent pas dans une élection. Ils ne pèsent pas parce qu'ils
ne votent pas ?
Non, alors, d'une part, ils ne pèsent pas parce qu'ils sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux. Vous avez, en gros, aujourd'hui, un jeune de 18 à 24 ans pour 4 personnes de plus de 70 ans dans notre pays. Mais non seulement ils sont plus nombreux, mais de surcroît, ils votent moins. Et donc, si on veut que les politiques s'intéressent davantage aux jeunes, eh ben, il faut aussi que les jeunes aillent davantage aller voter, ce qui renvoie au premier point.
Bon, quand ils auront le droit d'aller voter pour continuer justement, c'est Antoine qui est en terminale, toujours au lycée Saint-Gatien, qui voulait intervenir. Bonjour.
Exactement, c'est ça.
Bonjour Antoine.
Bonjour. Donc moi, c'est sur un tout autre sujet. Pensez-vous, comme l'ancien président de la République François Hollande, que la candidature d'Éric Zemmour, soit une candidature de scission, pour reprendre ces termes, qui travestit, manipule et instrumentalise le passé?
Pierre Rosanvallon, réponse de l'historien.
Là, l'historien, je crois que Zemmour a une vision de l'histoire de France qui est très limitée. Parce que il pense que l'histoire de France, c'est uniquement une histoire des grandes conquêtes, une histoire dans laquelle Napoléon est la figure essentielle, avec intellectuellement Barrès, puis De Gaulle. Il oublie que l'histoire de France, l'histoire de la Révolution, c'est aussi une histoire de la liberté, une histoire de l'égalité. Il voit simplement l'histoire de la souveraineté. Il voit uniquement l'histoire de la puissance. Il ne voit pas l'histoire de la communauté. C'est ça, à mon avis, qui est le grand manque de sa vision d'historien.
Natacha, l'émission va bientôt toucher à son terme. Intervention rapide.
Rapidement, nous avions reçu, il y a maintenant 3 ans, Éric Zemmour dans cette émission pour un livre d'histoire. Et nous étions confrontés à lui, justement parce qu'il y avait une instrumentalisation de certains éléments historiques et une façon d'arranger l'histoire à sa manière. Mais la candidature, là où François Hollande est sans doute, on va dire, manque un peu de vergogne, c'est que le problème de la candidature Zemmour ne se résume pas à son rapport à l'histoire. Oui, il y a une façon de fracturer, de scinder, qui pose problème. Mais nous le disions en début d'émission que c'est un symptôme d'une société qui elle-même est scindée et fracturée. Et la question est de savoir quelle est la responsabilité des politiques ces dernières années qui ont abouti à cet état de la communauté nationale, et ensuite quelle réponse on y apporte. Se contenter de dire que Éric Zemmour fracture, ça ne résout pas le problème.
Dernière question, Pierre Rosanvallon, avant de nous quitter, le prochain président ou la prochaine présidente de la République devra être un président des émotions. Il devra gouverner l'anxiété comme on gouverne une société.
Ce qui est sûr, c'est que les qualités qui font élire ne sont pas les qualités qui permettent de gouverner. Et si, pour être élu, il faut séduire, pour gouverner, il faut comprendre la société en profondeur. Sinon, celui qui gagnera sera un président impuissant.
Et ben voilà un excellent conseil pour le lycéen de Saint-Gatien qui pense un jour se présenter à l'élection présidentielle. Retenez bien les conseils d'un sage, du professeur Pierre Rosanvallon. Merci infiniment à vous d'être venu assister à ce grand face-à-face XXL. C'était passionnant d'être avec vous. Merci Pierre Rosanvallon. Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, c'est aux éditions du Seuil. Gilles, Natacha, merci. Je vous retrouve samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Marie Mérier. À la technique, Benjamin Chauvin, Laurent Macchetti, Benjamin Thuau. Et puis, je remercie également la ville et la mairie de Tours pour leur accueil si chaleureux. Jacques Benzakoun de la Nouvelle République qui nous a aidés également à préparer cette émission et peut-être un spécial Big up pour les lycéens. Je vous applaudis bien fort. De Saint-Gatien à jouer les tours et à votre professeur de français, Sarah Michel. Merci à tous.